entend dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. La liberté des dieux. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. l'enjeu métro qui est arrêté, qui est tout noir. On ne voit pas les passagers. Marche pendant un bon moment. Marche pendant un long moment sur le trottoir du tunnel. Un long moment, enfin un moment qui lui paraît long. Se sont éloignés du métro. Le vide. Juste le vent et le bruit de leurs pas. Ils se sont pris au mollet par une main. Ah ! Il a peur. Se redresse devant lui un homme. Il voit que son ombre et son odeur, une odeur désagréable. L'homme, en se relevant, a monté sa main jusqu'à sa taille et le maintient bien. L'homme, qui a l'air d'être vieux, est tout contre Philippe. Il lui demande « Que fais-tu là ?» Philippe, apeuré, lui dit « Eh, monsieur, je cherche la sortie. » L'homme lui dit « T'as de beau mollet. Eh, ta peau semble bien lisse et douce. Du vrai poulet. Mes potes et moi, on cherche à manger. » Philippe, apeuré, lui dit « Laissez-moi, monsieur, je vous en supplie. Mais j'ai faim. » Tout à coup, il entend des pas de godillots qui se rapprochent. T'as trouvé quelque chose, Polo ? Il est à moi. Il n'y a plus de rats. Tu vas nous le passer. Nous aussi, on a faim. Non ! Ils sont eux, ils les entourent. Philippe panique. On bouscule le vieux. Philippe sent. Qu'ils se battent. Mais lui a été libéré. Les autres se battent et roulent à terre. Aïe ! Tu mords mon pied, salaud ! Une autre voix dit : il est dégueulasse ! Philippe tend les bras. Essaye d'avancer. Le coin est sombre, apeuré. Il veut quitter les carnivores du métro. En avançant, il enjambe des pieds, des bras. Et ces fous furieux ne font pas attention à lui. Ils sont trop occupés. Il a réussi à se dégager. Vite, il court droit devant lui. Il en a marre. Il veut rentrer chez lui le plus vite possible. Oui, le plus vite possible. Enfin, il voit de la lumière, le tunnel s'éclaircit et montre une station de métro. enfin, il arrive sur le quai de la station du métro. Il y a du monde qui attend le métro et beaucoup de zombies. En se dirigeant vers les escaliers pour monter vers la sortie, il est encore attrapé par un garde du métro, un petit maigre, cheveux noirs, qui lui demande « Votre billet, s'il vous plaît !» Philippe lui dit « Puissez-moi la paix, et puis, il y a eu une panne d'électricité !» Il lui dit « Moi, je fais mon travail, et mon travail, c'est de demander les billets. Demandez-le à un autre, j'en ai assez. J'ai eu assez d'ennuis comme ça. » Un métro arrive sur le quai. La foule des voyageurs qui descendent et se bousculent et vont vers les marches. L'employé qui était bousculé, Philippe aussi, ce qui fait que ça les a séparés. Philippe en profite pour se sauver. Il entend derrière lui « Demandez vos billets !» Je ne paye jamais, c'est trop cher. Et puis c'est à cause de cette merde de gauchiste qui a bloqué le métro. C'est un scandale. Je m'appelle Pierre Max et j'en parlerai à mon émission. Philippe se dépêche de monter les escaliers au milieu de la file, de la foule. Il a peur que les flics le rattrapent parce qu'ils étaient dans ce métro qui vient de s'arrêter. Enfin, il est dehors. Oui, il est dehors. Malheureusement, il se trouve place de l'Étoile. Merde, c'est loin de chez lui. Regarde sa montre. Avec tout ce temps perdu, il est déjà tard. Il n'ose plus prendre le métro. Tout est désert. Il va voir s'il n'y a pas un car qui pourrait le mener vers chez lui. Malheureusement, la plupart des cars, après 20 heures, eh ben, ils ne circulent plus. Il ne lui reste plus qu'à marcher à pied. Un long chemin. Il longe les Champs-Élysées, qui sont déserts et presque sans lumière, pour aller jusqu'à la Concorde. Et là, tourner à droite pour aller du côté de la Seine. Et direction sa rue. Il a faim. Il en a marre. Enfin, après avoir marché dans Paris, désert, ou presque désert, il arrive à sa rue, épuisé. Sa rue aussi est déserte. Passant devant une voiture noire en stationnement, il a entendu la portière s'ouvrir et une personne sortir de voiture. Des pas. Les porcs qui se rapprochent. Sent une main se poser sur son épaule. Se retourne, surpris. Voit un homme grand, maigre, habillé d'un costume sombre, tête osseuse, cheveux blancs. J'ai à vous parler. Il lui dit, ça suffit, laissez-moi, j'en ai eu assez. Tout sujet d'une chose très importante, venez avec moi, je vous en prie. Philippe panique et lui dit, j'ai rien fait, je vous en supplie. Mais je sais que vous n'avez rien fait. C'est au sujet de ce qui s'est passé il y a 12 ans. Vous étiez jeune. Philippe, toujours aussi apeuré, lui dit « Lâchez-moi ou je crie !» L'homme le lâche. Philippe se met à courir. L'homme lui crie « Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. » Philippe appuie sur le bouton de l'interphone. « Oui ? » ?»« C'est moi, Philippe. » »« Bien, entrez. » Il est rentré. La porte s'est refermée derrière lui. Ouf ! Il va vers la maison, monte le perron et va sonner. La porte s'est ouverte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vite. Il monte les étages pour aller s'enfermer dans sa chambre. Et une fois dans sa chambre, il va dans sa salle de bain. Pour se nettoyer un peu. Son pyjama, pyjama de soie blanche, il sort de la salle de bain pour aller se coucher. Je dis qu'il est tombé ce soir sur des dingues. Oui, sur des dingues. Quel est ce fou qui voulait lui parler? Lui parler de quoi? De quelque chose qui s'est passé il y a une dizaine d'années? Une dizaine d'années. Il doit être un dingue. Mais en y réfléchissant bien, il ne peut s'empêcher de se dire que la chose la plus terrible qui lui est arrivée il y a 12 ans, c'est la mort de ses parents. Mais l'autre doit être fou ou ivre. Il ne sait rien de la mort de mes parents. Non, j'ai dû dire une chose comme ça. Ne me connaît même pas. Je ne sais même pas mon nom. Il ne m'a pas vu seulement une fois. Je veux être un sadique. J'essaie à me draguer. Après, le drogué, les cannibales, c'est normal que je tombe sur un dingue comme lui. Oui, je dois être un dingue. On a frappé à la porte. Oui, c'est moi.
C'est son oncle.
Oui, entre. Je suis venu voir si tout allait bien. Tu es rentré bien tard et Martin t'a trouvé bizarre et très sale. Philippe se dit, ce con de Martin, mouchard, c'est bien domestique, va. Il dit à son oncle, ça s'est bien passé, mais la soirée a duré plus longtemps que prévu et on a fait un peu les fous. J'étais obligé, c'est de rentrer à pied, plus de quart. Mais t'aurais dû prendre le métro. Une panne d'électricité, l'oncle lui dit. Enfin, l'essentiel, c'est que tu n'aies pas fait de mauvaises rencontres. Non, tout s'est bien passé. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, mon oncle. Et l'oncle lui demande, tu n'as vu personne dans la rue? Non, mon oncle. Bonne nuit.
Et l'oncle se retire.
Philippe se dit, tiens, il m'a demandé si je n'avais vu personne dans la rue, mais peut-être a-t-il entendu des voix. Il éteint sa lampe de chevet et essaye de s'endormir. En arrivant à l'école, il retrouve Bernard qui lui demande « Tu vas quitter la soirée bientôt, ça ne t'a pas plu ?» Philippe lui dit « Si, mais j'étais fatigué et puis une grosse bêtasse cherchait à me draguer. » Bernard lui dit « C'est Julie, c'est une brave fille, mais elle a des difficultés à avoir des amis. » Sorti de ses cours, Philippe se sauve. Il a rendez-vous avec Daniel. Il n'a pas tellement envie d'y aller, mais comme il a dit qu'il irait, il y va donc.
«
est à l'hôtel des ambassadeurs sur le boulevard Haussmann. Pas très loin de l'opéra. Il va donc accompagner, comme tous les jours, son ami Bernard en car. Jusqu'à l'opéra, et après il ira à son rendez-vous. Hôtel des ambassadeurs, fait restaurant, bar. C'est assez chic. Philippe se dit qu'il a dû lui donner rendez-vous devant l'hôtel. Il doit l'attendre. Il y va, mais il voit à travers les vitres Daniel assis dans un fauteuil dans le salon d'hôtel. Alors, il entre. Un garde vient à lui, grand, blond, 20 ans, habillé en costume et casquette grise. Vous désirez, monsieur ? Philippe gêné lui dit « J'ai rendez-vous avec une personne au bar. Elle est de l'hôtel. » Philippe encore plus gêné lui dit « Je ne sais pas, mais il m'a donné rendez-vous là et je l'ai vu qui m'attendait au salon. C'est pour ça que je suis rentré. Bon monsieur, allez-y. Merci. » Et Philippe se dirige vers le salon. Il voit que l'homme le suit de loin. Salon, Philippe le voit de suite. Va vers Daniel, qui se lève en le voyant et lui dit « Salut, tu viens t'asseoir à côté de moi ?» Philippe lui fait « Salut » et lui dit « Tu sais, qu'on te surveille, les gens se demandent qui tu es. » Daniel ouvre ses épaules et lui dit « N'a pas d'importance, assieds-toi. » Il s'assoit en face de lui dans un fauteuil en tissu à dominance bleue avec du bois sur les dossiers, les accoudoirs. Philippe lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Rien, j'attends, j'observe. Peut-être qu'on va faire que je vais faire des connaissances. Je veux me faire payer à boire. Tu n'offres à boire ? Philippe lui dit, oui bien sûr, ne trouve que le thé, mais ça l'amuse. Il fait signe à un serveur qui passe. Le serveur, un jeune homme de 18 ans, blond, habillé en serveur, pantalon noir et veste bleu clair. Oui, monsieur, nous désirions boire. Il demande à Daniel, qu'est-ce que tu veux boire ? Daniel lui dit, un bonbon. Philippe dit, alors deux bonbons. Le serveur s'éloigne. Daniel lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? À part traîner dans des lieux comme celui-là. Le soir, je vais vers les hôtels particuliers pour voir si je ne peux pas rentrer. Mais lui demande, tu n'as jamais fait passer ? Non. Enfin, si, une fois. Mais c'était de la très haute. Il y avait des gardes de partout. Toute l'avenue Velasquez était bouchée, comme pour la reine d'Angleterre. Je me suis fait prendre, mais un jeune homme a eu pitié de moi et a dit de me laisser partir. Autrement, j'aurais été au poste de police et peut-être en prison. Et il me demande, juste pour ça ? Oui, parce que c'était de la très haute. Je n'avais pas fait attention. Le serveur leur ramène leur commande. Philippe lui tend sa carte. Le serveur lui dit le prix des boissons et dépose la carte sur un mini-écran. Il tape le prix et rend la carte. Merci, monsieur. Et il s'éloigne. Il boit en silence. Il lui demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut que je rentre chez moi, parce que ça va crier. Si on ne me voit pas, il paraît que je sors trop. Nous sortirons ensemble une autre fois. Tant pis, tu ne m'en veux pas? Philippe lui répond, non, pas du tout. Nous avons bu un verre ensemble, et puis moi aussi, je dois rentrer tôt. Ils vident leur verre et sortent. Daniel lui demande, tu me raccompagnes? Un bout de chemin? Oui, bien sûr. Ils se mettent en route dans la direction de la gare de Montparnasse, qui n'est pas bien loin. Tout d'un coup, Dork barre le passage, l'homme d'hier au soir. Philippe et son compagnon s'arrêtent net. L'homme dit à Philippe, j'ai à vous parler. Philippe dit, laissez-moi, mais il faudra bien, laissez-moi tranquille. Et Philippe prend Daniel au bras et ils se mettent à courir. Daniel demande, qui est-ce? Philippe lui dit, un fou, il a cherché à m'aborder hier au soir. Daniel se met à rire et lui dit, tu as fait une touche? Philippe dit, c'est pas drôle du tout. Ils se sont arrêtés de courir. Daniel lui dit, et s'il a vraiment quelque chose à te dire? Philippe pose les épaules et lui dit, je m'en moque. Ils arrivent devant l'immeuble de Daniel. Philippe le regarde mieux. Il le trouve minable. Daniel lui dit, tu comprends pourquoi? Je cherche à fuir ça. Philippe lui dit, ce n'est rien. Et puis c'est la vie. Et puis, tu en sortiras. J'aimerais bien. Je suis prêt à tout pour ça. Bon, alors, on se voit quand? Si on sortait dimanche, nous irions longer la Seine. Philippe lui dit, oui. Quand? Daniel lui dit, ben, ici à 15h, ça va? Oui, ça va. Et Daniel entre dans son immeuble. Elle est étroite et sale, noire. C'est un petit couloir avec des escaliers de pierre usée, une rampe en fer vert, des boîtes aux lettres dépareillées. Ça sent les poubelles, des détritus à terre, une lampe pendue à un fil électrique au plafond. Daniel monte les escaliers, encombrés aussi de déchets. Arrivé sur les paliers, il y a deux portes d'appartement. Entre les deux portes, petite fenêtre pour aérer les WC. Une bonne idée pour rajouter les odeurs. Arrivé au deuxième étage, il sonne à la porte de droite.
La porte s'est ouverte. C'est une grosse et petite femme à cheveux en désordre gris. Ses yeux louchent un peu. Elle porte une blouse bleue à fleurs qui a des reprises et a des charentaises roses. Elle fait pas net. Sa blouse est tachée. Elle dit « Tiens, c'est toi ?» Daniel lui dit « Ben oui, c'est vous qui m'avez dit de rentrer tôt, me v'là. » Elle lui dit « Eh bien, puisque t'es là, entre. » Il entre. Elle ferme la porte. Petit couloir sombre avec deux portes. J'ai un porte-manteau en bois rempli de linge. Ça sent bizarre. La cuisine et des odeurs d'eau usée. Il ouvre la porte de droite qui donne dans la cuisine. Pièce rectangulaire avec une petite fenêtre au bout. La pièce est longue. Il y a une table et des chaises. La table est pleine de restes de repas. Un évier en pierre, une cuisinière à gaz butane qui a des tas de casseroles dessus. En butane, parce que soi-disant ça coûte moins cher que le gaz de ville. Un vieux réfrigérateur tout jauni. Un homme à maillot de corps tricoté, à tête ronde, pantalon de travail en tissu bleu, cheveux rares blonds. Il se sert un verre de vin Marnia. Une bouteille en plastique de 2 litres. Lorsqu'il voit Daniel, il lui demande « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Daniel lui dit « Vous m'avez dit de rentrer tôt, et ben me v'là. » Il s'assoit à table. La mère lui demande « Tu veux manger ? » ? Oui, je veux bien. Elle lui dit, il y a de la viande en sauce. Ça ira. Elle va à la cuisinière prendre une casserole en alu. Le père, lui, prend une assiette et un couvert. Et pour le poser sur la table, il déplace les choses qui sont dessus. Toute la santé qui sont sur la table. Reste petit déjeuner, bol sol, sucrier, pain, carcasse de poulet, tronon de pommes. La mère le sert. C'est de la viande en sauce. La sauce est marron foncé. La viande est toute noire et filasseuse. Ça sent bizarre. Merci. Il en mange une bouchée. Ça a un drôle de goût.
de lessive et de moisie. Il se dit que la mère a dû cuire la dans la casserole qui sert à faire bouillir les slips de son frère sans la rincer.
La porte s'ouvre.
Tiens, voilà le frangin. Est un jeune d'un 25 ans, grand et gros, tête ronde, cheveux noirs coupés courts. Il a les yeux qui sortent de la tête. D'un t-shirt noir crasseux et d'un jean. Il regarde son frère et lui dit un pas. Il nous dénigre. Un pas. Un pas. Daniel ne dit rien. Il mange. En faisant la grimace. Parce que ce n'est pas bon. C'est dégueulasse. Son frère lui dit. Regarde-le. Il n'aime pas ce qu'on lui donne. La mère qui est debout devant la table regarde Daniel et c'est vrai ça, tu n'aimes pas ça? Si, j'aime bien. Le frère dit, c'est pas vrai, regarde, il fait la grimace. Le père dit, s'il n'est pas content, il a qu'à aller manger des ortolans ailleurs. Daniel ne dit rien, il continue à manger. La mère dit, il sera bien trop content d'aller manger ailleurs, pendant que nous mangerons de la merde, et lui mangera des ortolans. Daniel se dit, c'est bien ce qu'ils me font manger. Il s'arrête de manger. Son père lui demande, pourquoi est-ce que tu arrêtes de manger? J'ai plus faim. Ouf. Le frère dit, c'est pas vrai. Il n'aime pas. Son père lui dit, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas? Daniel dit, j'ai pas faim, voilà tout. Daniel se lève. Pour sortir de la cuisine, son père lui bat le passage et lui demande, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas? Le frère dit, dis-le à ton père. Daniel commence à avoir assez de tout ça, de leurs cris. J'aime pas, parce que c'est dégueulasse. Vous avez fait cuire la viande dans la casserole où il fait ses slips et ses maillots de corps. Ça pue la lessive, votre viande. Oui, ça pue la lessive, votre viande, son père lui dit. C'est pour parler de ça. Hein? Que tu viens voir ta mère? Tu ne devrais pas dire ça à ta mère. Daniel lui dit, c'est vous qui m'avez forcé à le dire. Autrement, je n'aurais rien dit. Voilà. Mon père ne sait quoi dire. Il le laisse passer. Daniel quitte la cuisine. Il va dans sa chambre. Qu'il partage avec son frère. Pièce en longueur. Il y a deux grands lits du côté du mur. Hein? Et un lit à une place pour son frère. Une fenêtre, une armoire penderie, archi pleine, où les portes sont ouvertes tellement elle est pleine, l'armoire. Les lits ne sont pas faits. Il y a du linge à terre. La pièce est toute petite. Ça semble refermé, parce que son frère ne veut pas que l'on ouvre la fenêtre. Daniel soupire. Il se déshabille.
pour aller se coucher. Il en a assez de cette vie. Il se dit qu'ils sont pauvres, des bêtes et cons. Après-midi, Philippe et Daniel vont se promener sur les berges de la Seine. Ils y vont à pied pour faire un peu d'exercice. Tout en marchant, Daniel raconte l'incompréhension qu'il a avec sa famille. Il dit, ils sont bêtes, on dirait des débiles. Mon frère d'une méchanceté, il est jaloux de moi parce que je fais attention à ma mise. Dès que je peux, je les quitte. D'ailleurs, je ne les vois presque plus. Philippe lui demande. Mais pourquoi est-ce que tu ne vivrais pas seul ? Oui, pourquoi est-ce que tu ne vivrais pas seul ? Je n'ai pas d'argent. Travaille. Et pourquoi faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je n'ai pas de diplôme. Philippe lui dit, mais trouve-toi un travail de manœuvre. Je ne suis pas capable. Je ne supporterai pas qu'on me donne des ordres pour faire des choses idiotes. J'aurais honte que ce travail. Et en plus, ce qu'il faudrait, c'est me sentir humilié par un chef débile. Philippe lui dit, alors retourne à l'école. Rien non plus, je ne supporterai pas. Philippe se dit qu'il ne cherchera jamais à rien faire. Il lui demande, et que veux-tu faire ? Être riche, mêler à la grande vie. Mais pour ça, il faut que tu aies du travail et de l'argent. Daniel lui dit, non, seulement de l'argent. Philippe lui dit, tu sais, les gens qui ont une belle vie ont travaillé pour ça, ou leur famille l'ont fait. Il faut sortir de tes rêves et voir la vie en face. Daniel lui dit, la vie en face, c'est comme la vie de ma famille. Non. Je ne veux pas. Ils arrivent vers les quais. Comme il fait beau, il y a des passants qui marchent nonchalamment. Quelques péniches le long de la Seine. Ils voient assis sur le rebord du quai, des pieds assis sur le rebord. Grandes jambes longues qui sont maigres, une jeune fille grande, mince, blonde, cheveux mi-longs. Elle semble leur sourire avec un air mutin, grande bouche rieuse, habillée d'une robe blanche d'été. Arrivée près d'elle, elle leur fait: bonjour.
et lui disent bonjour. Leur demande, vous vous promenez? Ben elle lui dit, oui. Elle lui demande, vous me ferez à boire? J'ai soif. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Junier Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.